Auditeurs de Radio Albigès, bonjour. C'est le groupe Amnesty International d'Albi qui vous présente son émission mensuelle Les Chroniques Amnestiennes, émission sur les droits humains dans le monde. Aujourd'hui, Jean-Marie, Jean-Michel et Patricia animeront l'émission. Bonjour.
Bonjour, bonjour Jean-Michel, bonjour Patricia.
Bonjour, bonjour à tous.
Dans le cadre de l'opération 10 jours pour signer 2018, nous vous passerons un reportage terrain extrait de l'émission que France Culture réalise en collaboration avec Amnesty International France au moment des 10 jours pour signer, début décembre. Ce reportage concernera la situation de Pavitri Manji, militante du droit à la terre en Inde, harcelée parce qu'elle défend les droits de la communauté indigène Adivasi au Chhattisgarh dans le centre de l'Inde. Après une pause musicale, nous vous donnerons le point de vue d'Amnesty International dans la continuité de notre émission de janvier sur la proposition de la loi anti-casseurs actuellement en discussion au Parlement. Pour nous, il s'agit d'un véritable casse du droit de manifester. Le 8 mars est traditionnellement la journée de défense des droits des femmes. Dans ce cadre, nous lançons une action de soutien aux trois femmes défenseurs en Arabie Saoudite, actuellement emprisonnées, harcelées et torturées, pour avoir réclamé plus de liberté pour les femmes saoudiennes. Nous terminerons notre émission par deux bonnes nouvelles concernant deux personnes que nous avons défendues avec vous, chers auditeurs, en Malaisie et en Indonésie. Bon alors Jean-Marie, nous allons commencer donc par traiter le problème de l'Inde.
Donc nous sommes là en présence d'une communauté qui se trouve située dans un petit pays, un État qui est dans le centre de l'Inde.
Dans le centre de l'Inde, oui.
C'est une communauté autochtone donc des Adivasi, qui est apparemment une communauté assez diffusée dans cette région. Et on parle de Pavitri Manji, donc on va l'écouter, elle est interviewée dans le reportage que l'on va entendre. Elle a été élue comme chef du village, du conseil du village. Et donc, à ce titre-là, elle est harcelée par les grandes entreprises qui veulent récupérer les terres occupées par les villageois qu'elle essaye de défendre.
Voilà, nous allons écouter cet enregistrement. Attention, écoutez bien, chers auditeurs, parce que c'est assez complexe. Les relations qui ont lieu actuellement dans cette partie de l'Inde ne vont pas vous décevoir.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Alors, deuxième reportage dans le cadre de cette campagne d'Amnesty 10 jours pour signer. Cette fois, Eric Begala, vous nous présentez la situation d'une communauté autochtone indienne.
Oui, ça s'appelle les Adivasi. On vous emmène en fait dans le centre de l'Inde, hein, dans l'état du Chhattisgarh, qui est donc au centre-ouest du pays, de cette immense péninsule du Deccan. Avec les Adivasi qui sont l'un des peuples tribaux d'Inde, des aborigènes en fait, hein, des peuples d'origine, bien avant que les Indo-Européens qui se retrouvent coincés, si l'on peut dire, entre une rébellion armée, alors d'obédience maoïste, on les appelle les naxalites, et les forces de sécurité, et puis une troisième force qui sont, eh ben, tout simplement les forces économiques. Et en fait, vous avez, avec Amnesty International, choisi de mettre un coup de projecteur sur une personne en particulier, qui est une femme également, mais qui est aussi, et surtout peut-être, une chef de village, chef de village élu, traditionnel, de cette communauté Adivasi, et qui se bat depuis des mois, des années même maintenant, pour essayer de faire en sorte que, eh ben, tout simplement, sa communauté ne soit pas expulsée de l'endroit où elle vit, pour construire une ou deux, je crois, deux centrales électriques en plein sur le territoire. Et c'est Gaspard Illich, notre correspondant donc dans le centre de l'Inde, qui nous a préparé ce reportage.
Et il a pu joindre au téléphone Pavitri Manji.
Nos problèmes ont débuté en 2009, lorsque des entreprises ont voulu exploiter l'acier de nos terres et construire ici une centrale à charbon. Beaucoup d'entre nous ont refusé de vendre leurs terres et d'accepter un quelconque dédommagement. Alors une nuit, les hommes du village ont été embarqués dans un camion. On leur a fait boire des alcools très forts et on les a forcés à signer des papiers auxquels ils ne comprenaient rien pendant qu'ils étaient ivres. C'est seulement plus tard que nous avons réalisé que nous avions été spoliés de nos terres. L'entreprise a commencé son travail. Il y a une semaine, la cheminée de la centrale a commencé à rejeter sa fumée toxique. Cela détruit nos cultures de tomates et d'aubergines. Toute la région est polluée. Certaines de nos terres ont aussi été ravagées par les forages pour en extraire de l'acier.
La femme que vous venez d'entendre s'appelle Pavitri Manji. Elle appartient à la communauté tribale Adivasi, un peuple millénaire qui vit sur les terres sauvages d'Inde centrale. Aujourd'hui, les Adivasi sont menacés par de grandes entreprises industrielles qui spolient leurs terres pour récupérer le charbon et l'acier qui s'y trouvent. Pavitri habite une région très isolée, où le réseau téléphonique est aléatoire. Nous avons réussi à la contacter.
Je suis née dans un village appelé Puri. Après mon mariage, je me suis installée dans le village de Kokraoma, où nos terres sont aujourd'hui menacées. Nous considérons la terre comme notre mère, et nous y avons grandi de génération en génération. Nous tirons toute notre subsistance de la terre, le riz, les fleurs de mahoua, les lentilles. Tout ce que nous récoltons fait vivre et nourrit nos familles, nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes obligés d'acheter du riz au marché, faute de pouvoir en cultiver.
Bien que le territoire des peuples tribaux soit théoriquement protégé par la constitution indienne, Pavitri Manji ne peut pas compter sur le gouvernement pour défendre ses droits. Alors, depuis 5 ans, elle a entrepris d'organiser une résistance pacifique et citoyenne.
Le gouvernement, l'administration, les entreprises, c'est la même chose. Ils sont tous main dans la main. Les fonctionnaires locaux sont corrompus. C'est pour cela que rien ne se passe et que l'on ne nous rend pas nos terres. Nous nous battons depuis plus de 5 ans. Nous avons fait des sit-ins pour empêcher les bulldozers d'avancer. Nous avons organisé des grèves de la faim. Nous nous sommes opposés aux officiers locaux. Beaucoup d'entre nous ont été arrêtés, comme mon fils, qui a passé 25 jours en prison. On lui a demandé pourquoi il continue à s'opposer alors qu'on nous avait donné 10 millions de roupies. Mais c'est un mensonge. Nous avons eu à peine quelques milliers de roupies.
Pavitri, quel genre de pression avez-vous subi?
On nous a dit que si nous nous opposions aux entreprises, nous serions envoyés en prison sans aucun dédommagement. On nous a dit que nos terres seraient confisquées, quoi qu'il en soit, que nos maisons seraient détruites et que notre peuple serait déplacé et qu'il n'y avait rien à faire. Pour l'instant, notre village est encore debout, mais nous craignons qu'il revienne.
Comment comptez-vous continuer le combat aujourd'hui ?
Nous voulons récupérer nos terres, qui sont les nôtres, de génération en génération. Sinon, comment allons-nous élever nos enfants? Nous avons besoin de l'aide de tout le monde. Vous qui nous écoutez, vous pouvez nous aider. Amnesty International nous aide beaucoup. C'est grâce à leur travail juridique que certains de nos terrains ont pu être sauvés. Nous sommes un peuple pauvre et nous n'aurions jamais pu nous battre sans leur aide.
Soutenu par Amnesty International, le combat de Pavitri Manji est devenu un symbole pour beaucoup de militants des droits humains en Inde. Car les terres de Pavitri ne sont pas les seules à être menacées dans le Chhattisgarh. Dans cette région, les peuples tribaux sont pris en étau entre des compagnies minières prédatrices, des fonctionnaires corrompus et des rebelles maoïstes dits Naxalites. Arrivés dans les années 70, ces rebelles, qui prétendent lutter pour les droits du peuple Adivasi, attaquent les forces de sécurité indiennes et ajoutent à la violence de la région. À l'occasion d'une grande marche pour la paix dans la région, nous sommes allés à la rencontre de Shubhranshu Choudhary, un ancien journaliste de la BBC, devenu aujourd'hui militant des droits des peuples tribaux d'Inde centrale.
My name is Shubhranshu Choudhary, I'm a journalist.
Je m'appelle Shubhranshu Choudhary, je suis journaliste. Ici, nous sommes dans le village de Darba, dans le district de Bastar, dans l'état du Chhattisgarh, en Inde centrale. Depuis plus de 40 ans, l'Inde centrale subit un conflit politique armé. Ce conflit oppose la guérilla maoïste, dite naxaliste, et l'État indien. Les maoïstes sont venus ici pour se cacher. Ils se battaient pour le communisme dans d'autres régions de l'Inde depuis longtemps. Mais après leurs derniers échecs en 1972, ils se sont réfugiés dans cette forêt. Elle fait des centaines de milliers de mètres carrés. Certains l'appellent l'Amazonie de l'Inde.
Comment est-ce que les choses ont évolué depuis les années 90 où les maoïstes ont choisi de se cacher en Inde centrale?
Les maoïstes sont venus faire croire que le jour où ils gouverneront, tous les problèmes disparaîtront. Il n'y a donc que 1% des rebelles qui sont vraiment des maoïstes. Les autres, les soldats, les partisans, ils se battent pour leurs droits. Les maoïstes attaquent les forces de sécurité. Les forces de sécurité travaillent pour l'État. Mais c'est aussi évident qu'elles travaillent pour les entreprises. Parce que cette région, c'est le ventre énergétique de l'Inde. C'est ici que l'on trouve tout le charbon, tout l'acier, tout ce dont l'industrie a besoin pour tourner.
Quel est le bilan de ce conflit pour l'instant ?
Selon les estimations du gouvernement indien, 12 000 personnes sont mortes ces 20 dernières années. 2 700 appartenaient aux forces de sécurité et 9 300 aux civils, surtout au peuple tribal Adivasi. Mais ce qui se dit ici, c'est que ce nombre est bien plus élevé. Parce que beaucoup de tueries se déroulent dans des zones forestières isolées et ne sont jamais comptabilisées. Quoi qu'il en soit, le Chhattisgarh, l'État où nous nous trouvons, est le quartier général des maoïstes. Et beaucoup d'habitants sont pris en étau entre les deux camps. Donc, c'est l'enfer. La vie est très très difficile pour beaucoup de gens, et depuis longtemps.
L'enfer. C'est ainsi que Shubhranshu Choudhary décrit le quotidien des habitants du Chhattisgarh. Heureusement pour Pavitrimanji, les maoïstes ne sont pas vraiment implantés aux alentours de son village. Mais nous avons rencontré le chef d'une des tribus Adivasi qui témoigne de sa situation au cœur de ce conflit.
Je m'appelle Sidamarju. Je suis le chef de la communauté Adivasi du Telangana. 18 membres de notre communauté sont venus se joindre à cette marche. Nous marchons parce que le conflit entre les maoïstes et le gouvernement prend une tournure de plus en plus violente. Et nous, les Adivasi, sommes ceux qui en payent le prix. Nous voulons mettre fin à cette situation. Plutôt que de dépenser de l'argent dans les forces de police, le gouvernement devrait investir dans le développement. Il devrait avoir de la compassion, de l'amour pour notre peuple, afin que son sort s'améliore. 97 membres de ma communauté ont été tués dans cette guerre entre les Naxalites et les forces gouvernementales. La plupart du temps parce que l'un des camps nous désigne comme des informateurs pour l'autre camp.
Parmi les participants à la marche pour les droits des Adivasi se trouve Rohit Prasad. Cet économiste basé à New Delhi a écrit un livre sur la région Blood Red Rivers, des rivières rouges de sang. Rohit, à qui appartient ce sang et qui le fait vraiment couler ?
This is the blood of the ordinary people of India.
C'est le sang des citoyens ordinaires dont les vies sont détruites par l'industrialisation, l'exploitation minière, la mondialisation. Mon livre se concentre sur le Chhattisgarh, en particulier sur la vie des Adivasi. Ce peuple habite ces terres depuis des centaines de milliers d'années. C'est une des régions les plus riches en minerais de l'Inde et même du monde. Mais les gens qui vivent sur le sol sous lequel repose ce minerai sont privés des droits humains fondamentaux. C'est ça le paradoxe du Chhattisgarh.
Qui sont les protagonistes de cette guerre ? Est-ce que c'est vraiment aussi simple que le gouvernement contre les maoïstes ?
The only thing that is absolutely clear in this conflict.
La seule chose qui est absolument claire dans ce conflit, c'est que les habitants de la région sont les perdants. Soit le gouvernement les accuse d'être des sympathisants maoïstes, les jette en prison, les assassine lors de fausses escarmouches, les déplace dans d'autres états. Soit les maoïstes les traitent d'informateurs, les menacent, les battent, les tuent. Pour le peuple Adivasi, c'est donc pile tu gagnes, face je perds. Maintenant, est-ce que ces deux belligérants eux-mêmes sont vraiment des ennemis ou sont de faux ennemis? C'est une question ouverte. Souvent, pour mener à bien leurs projets, le gouvernement et les compagnies minières doivent verser de l'argent à la fois aux maoïstes et aux fonctionnaires corrompus. Les politiques gagnent par ailleurs un grand nombre de voix durant les élections en prétendant être anti-maoïstes et mener des actions coup de poing. Il est donc certain que les fonctionnaires tirent de nombreux avantages personnels de la présence des maoïstes.
Parlez-nous un peu plus de ces entreprises, de ces multinationales qui opèrent sur le sol du Chhattisgarh.
Le gouvernement, bien sûr, assure pour la private company.
Le gouvernement, c'est évident, permet aux entreprises de spolier injustement des terres aux habitants. Les forces de sécurité assurent que les contestations locales, a fortiori si elles sont liées aux maoïstes, soient réprimées. Le gouvernement et les compagnies minières dorment dans le même lit.
Comment assurer un développement durable et amener la paix en Inde centrale? Pour le journaliste Shubhranshu Choudhary, c'est en respectant les droits constitutionnels des peuples tribaux et en répondant à leurs besoins que l'Inde pourra offrir un avenir à cette région. Sans cela, la situation pourrait bien s'aggraver pour ses habitants.
Il y a un état plus au nord qui s'appelle Jharkhand. Là-bas, le mouvement maoïste a complètement dégénéré. On y compte des dizaines de factions maoïstes et beaucoup d'entre elles travaillent pour des sièges d'entreprises, des forces de sécurité ou des compagnies minières. Leur colonne vertébrale idéologique s'est effritée. Et ces maoïstes, au fil du temps, ont donné naissance à une génération de mercenaires qui ont goûté au sang, qui ont goûté au pouvoir. Cela a viré en guerre des gangs. Ici, pas encore. C'est pour cela que nous organisons cette marche pour la paix, parce que nous craignons que le Chhattisgarh ne prenne la même route que le Jharkhand. Nous avons une fenêtre d'opportunité, nous devons l'utiliser.
Mais toutes ces personnes qui rejoignent les maoïstes, est-ce qu'ils n'ont pas des raisons légitimes d'être en colère ?
Vous avez parfaitement raison. Les peuples tribaux ont été trahis et leurs droits n'ont pas été respectés. Alors ils doivent se battre. Mais lorsqu'ils se battent aux côtés de groupes qui réclament quelque chose d'anticonstitutionnel, ils n'obtiennent pas ce qui devrait leur revenir. Ce qu'il faut faire, c'est négocier les droits des 99% des habitants d'Inde centrale. Ça, c'est faisable. Un jour, je parlais au plus haut des gradés maoïstes parmi les tribaux. Il a commencé à me baratiner. Nous nous battons pour le communisme, nous nous battons pour le socialisme, nous voulons amener l'égalité, nous voulons être la Chine, la Russie, blablabla. Mais en passant plus de temps avec lui, il en est venu à de vraies préoccupations. Nous n'avons pas de professeurs dans nos écoles, notre langue n'est pas respectée, nous ne sommes pas traités comme des êtres humains. Tout cela, ce sont des droits constitutionnels que n'importe quel gouvernement indien doit écouter et assurer. Voilà ce que nous réclamons pour la région.
Pavitrimanji, la cause des aborigènes du Chhattisgarh, un reportage de Gaspard Illich, réalisation Annie Bro. Cécile Coudriou, on parle là d'un peuple autochtone qui a une langue spécifique, qui vit dans des forêts. Comment est-ce qu'Amnesty International fait pour les soutenir et pour se tenir au courant de leur situation?
Alors, d'une part, ça illustre parfaitement l'élargissement de notre mission, puisqu'on est quand même plus connu au départ pour la défense des droits civils et politiques. Et là, on se rend bien compte qu'il y a aussi le droit à la terre, par exemple, parfois le droit à vivre dans un environnement sain, et donc ce sont bien des droits économiques, sociaux et culturels. Donc effectivement, nous défendons les peuples autochtones et leurs droits fondamentaux, à ne pas être discriminés, à vivre dignement là encore. Et c'est très important, comme on le voit dans le reportage, que des ONG mondiales puissent appuyer un combat local. C'est un petit peu, on pourrait dire, la métaphore de David contre Goliath. Donc on cherche à être du côté de David, évidemment, et d'armer sa petite fronde, même si c'est de manière pacifique. Donc c'est un travail qui peut prendre plusieurs formes. D'une part, la mobilisation citoyenne mondiale peut appuyer notre propre travail de plaidoyer auprès des autorités, mais il y a aussi un aspect juridique. Parfois, ça va aussi jusqu'au contentieux. Donc, on peut aider des peuples qui, sur le plan local, n'auraient pas les moyens, ni financiers, ni autres, d'ailleurs, de pouvoir porter en justice une affaire. Et donc, c'est véritablement ce lien du local au global qui donne davantage de pouvoir et davantage de force à leur combat.
Mais très concrètement, comment est-ce qu'il se fait, ce lien, justement? Comment est-ce que ces personnes finissent par savoir que vous existez? Comment est-ce que vous avez connaissance de leurs difficultés?
Bien, effectivement, ils rentrent en contact avec la branche d'Amnesty International la plus proche d'eux. Et puis nous envoyons des chercheurs sur le terrain pour bien sûr constater en toute impartialité des violations des droits humains, avoir des preuves, écrire des rapports. Et c'est à la base de ces rapports-là qu'ensuite nous pouvons à la fois mener un travail de plaidoyer et de mobilisation. Et parfois, c'est moins connu, mais c'est très important, notamment quand nous prenons pour cible les entreprises, d'avoir également des actions de contentieux. Pour vous donner un exemple, au Nigeria, c'était il y a 4 ans, si je me souviens bien, l'entreprise Shell avait vraiment dévasté l'environnement dans le delta du Niger. Eh bien, c'est Amnesty International qui a pu porter l'affaire en justice et obtenir d'ailleurs gain de cause en partie. Je dis en partie parce qu'il y a eu des dédommagements, mais malheureusement, il n'y a pas eu encore de nettoyage du site. Donc, c'est pour vous donner un exemple concret du fait que la puissance d'une ONG mondiale peut aider effectivement des personnes qui ont tout simplement envie de vivre dignement et qu'on ne massacre pas leur environnement.
Mais dans le cas de Pavitrimanji et de son village, on voit que la situation est quand même particulièrement complexe. Il y a l'État indien, il y a les grandes entreprises, il y a des maoïstes armés. Ça semble quand même assez difficile d'agir et de faire évoluer la situation.
C'est vrai que c'est extrêmement complexe, parce que déjà la cible entreprise est particulièrement difficile. Souvent, ce sont des multinationales donc, qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'avocats eux aussi. Donc, il faut déjà faire attention à comment on aborde l'affaire. Et puis, lorsqu'il y a effectivement des conflits politiques qui s'additionnent, ça complexifie beaucoup l'affaire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait qu'on mette en lumière des violations des droits humains de ce type-là donne une légitimité aussi à leur combat. Et lorsqu'on cherche à l'instrumentaliser, à le politiser, alors que le combat de cette femme, évidemment, on peut dire politique dans le sens où tout est politique, mais c'est avant tout pour tout simplement garder le droit à la terre, garder la possibilité en tant que peuple autochtone de vivre avec ses traditions, de vivre sans discrimination. Donc ça, au regard du droit international, c'est parfaitement légitime. Donc nous avons tout notre rôle à jouer pour appuyer ce combat-là.
Et ce travail justement d'appui, vous le faites en réseau avec d'autres ONG?
Oui, alors bien sûr. D'une part, je le répète, des liens entre des ONG ou associations locales et nous. Et puis, il y a également d'autres ONG comme Human Rights Watch, par exemple, qui parfois font elles aussi leurs recherches indépendantes et qui peuvent croiser en fait nos informations. Donc nous travaillons en bonne intelligence, en complémentarité ensemble.
Bien, voilà ce reportage très complet sur la situation donc en Inde centrale par rapport à la communauté Avidizi. Bon, je vous rappelle simplement, j'espère ça d'abord que cela vous a intéressé, que vous avez apprécié entre guillemets la complexité de la situation. Bon, c'est au 10 jours pour signer de 2018, on a effectivement une pétition qui était sur ce sujet-là, qui s'appelait Stop au harcèlement contre Pavitrimanji, militante du droit à la terre en Inde, qui a été signée largement partout en France.
Plus de 40 000,
ce qui est bien, plus de 40 000 signatures. Bon, ces signatures ont été portées donc vers l'autorité de Shitati Segar en Inde pour leur signifier notre mécontentement et en demandant donc d'assurer une protection adéquate à Pavitri et aux autres villageois. Veiller à ce que toutes les plaintes pour dépossession illégale de terre ou pour intimidation villageois fassent l'objet d'une enquête rigoureuse et fournir aux personnes concernées des réparations adéquates. Voilà. Donc voilà quel était l'objet donc de la pétition. Nous suivons cette affaire et bien entendu, dès que nous aurons des précisions, nous vous les apporterons. Voilà. Merci. Alors, on va passer en fait à la pause musicale. Arnaud, je te laisse lancer la pause musicale.
Nous sommes tous un peu trop fragiles à regarder tomber la nuit sur le vert de gris de nos villes avec nos amours sous la pluie dans cette grisaille silencieuse où les regards de nos déesses deviennent des ombres orageuses et chargées d'étranges tristesses. Hey, magnifiquement belles. Hey.
magnifiquement. Elles ont cette folie si tranquille, ce calme étrange au bord du stress qu'on nous traînons sur nos béquilles, à leur mondier de la tendresse.
Elles sont si brillantes et si vraies dans le chaud velours de leur nid, pour nous piètres morveux distraits qui nous prenons pour des génies. Elles, magnifiquement belles, elles, magnifiquement belles, elles, magnifiquement. Elles portent en nous des cris d'enfants comme autant des cours de récré quand on attend l'heure des mamans au bout de nos cœurs estropiés.
Elles ont le monde entre leurs seins et nous sommes des oiseaux perdus,
des ptérodactyles en déclin avec des sentiments tordus.
Elles, magnifiquement belles, elles,
magnifiquement belles, elles,
magnifiquement.
Fragile à regarder tomber la nuit sur le vert de gris de nos villes avec nos amours sous la pluie.
Auditeur de Radio Albizès, vous êtes toujours avec le groupe Amnesty International d'Albi pour son émission mensuelle Les Chroniques Amnestiennes. Nous venons d'entendre Hubert Félix Thieffen et Kali dans une chanson qui s'appelle Ginessé. Cette chanson, nous la dédions aux femmes à l'occasion du 8 mars au groupe. Voilà. Et nous allons passer donc maintenant à quelque chose qui nous occupe et préoccupe depuis un petit moment, puisqu'avec les manifestations qu'on connaît en France depuis le mois de novembre, beaucoup de choses ont été dites et peuvent encore être dites sur la façon dont ces manifestations sont traitées. On a parlé du droit de manifester lors de notre émission de janvier, ouais, abondamment, avec Zakhar. Mmh. Et le troisième volet, je dirais, l'acte 3, là, maintenant, c'est en fait la casse du droit de manifester que nous dénonçons à Amnesty International.
Oui, alors le 30 janvier, donc, là, 2019, cette année. Donc les députés ont adopté les quatre premiers articles de cette proposition de loi qui est appelée dite anticasseur.
Oui.
Une loi qui restreint surtout et arbitrairement, enfin on va en parler un peu plus, je pense,
oui,
le droit de manifester pacifiquement. Loin d'avoir dissipé nos craintes, je crois que les amendements qui sont votés les ont renforcés.
Oui, effectivement, une majorité de députés a voté pour l'article 2 de la loi qui donne au préfet, c'est-à-dire l'autorité administrative, le pouvoir d'interdire à une personne de manifester sur la base de motifs toujours aussi flous et dangereux, loin du regard de la justice.
Alors, premier point, donc, cette interdiction administrative de manifester. Alors, elle est entérinée ?
A priori, si on lit le texte tel qu'il est pour l'instant écrit et amendé, et effectivement, on constate que si les députés ont bien abrogé les motifs d'interdiction scandaleux liés à l'appartenance à un groupe ou relations régulières avec des personnes jugées indésirables par les autorités, eh bien, les députés ont étendu la possibilité d'interdire administrativement de manifester toute personne qui, je cite, « par ses agissements à l'occasion de manifestations sur la voie publique ayant donné lieu à des atteintes graves, à l'intégrité physique des personnes, ainsi que des dommages importants aux biens ou par la commission d'un acte violent à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. » Voilà. Donc, ça a été repéré quelque part, là, dans l'environnement 2, où on vous interdira de manifester,
ouais, donc,
même si vous n'avez rien fait.
Hein. Par conséquent, il n'y a nul besoin d'avoir été condamné.
Exactement. Voilà.
Nul besoin non plus de démontrer que les agissements en question ont causé des violences ou des dégradations.
Exactement. Le préfet, donc je dis bien le préfet,
oui,
devra seulement penser, mais pas démontrer par des faits tangibles que cette personne constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public pour interdire à une personne de manifester.
Alors. Donc c'est une rédaction qui laisse encore plus de place à une appréciation subjective,
ouais,
et potentiellement arbitraire. En tout cas, non vérifiable dans les faits.
Exactement. Et nouveauté encore, l'arrêté d'interdiction pourra être pris pour une durée d'un mois et pas sur une manifestation spécifique, ce qui revient concrètement à une peine d'interdiction sans infraction. Donc rien à l'article voté ne garantit que ces interdictions d'un mois ne seront pas renouvelées mois après mois.
Alors est-ce qu'il y a des recours possibles sur ces interdits?
Alors justement, le deuxième grand point qu'on note pour l'instant donc, dans l'examen de ce projet de loi, c'est l'absence de recours effectif pour les interdits de manifestation. Donc il est désormais prévu que la notification ne soit plus réellement impérative dans les 48 heures, puisqu'en pratique, si le préfet n'a pas réussi, en raison de ses contraintes, à notifier à la personne dans les 48 heures, l'arrêté reste valide. Donc il doit seulement être notifié au plus vite et même pendant la manifestation.
C'est pas mal ça.
C'est pas mal, oui. Et cela rend illusoire la possibilité d'un recours efficace contre ces arrêtés, bien sûr, compte tenu des contraintes de temps pour saisir un juge administratif dans le tribunal.
Alors troisième point de ces premiers articles déjà. Donc, il a envisagé que se protéger le visage serait un délit.
Voilà, alors c'est quelque chose qui a été bien évoqué dans les manifestations, se protéger le visage. Bien. Alors effectivement, une majorité de députés a aussi voté l'article 4 de la proposition de loi, faisant de la dissimulation de toute ou partie du visage un délit pénal.
Oui, c'est ça. Ouais.
Alors, nous avions alerté sur le fait qu'avec un tel article, des personnes portant un foulard, une écharpe, un casque, des lunettes de plongée, pour protéger leur intégrité physique, pourraient être interpellés, placés en garde à vue et poursuivis si la personne ne peut fournir de motifs légitimes. Cela risque d'aboutir à des arrestations arbitraires et de dissuader fortement des citoyens d'exercer leur droit de manifester pacifiquement. Cet article était à peine encadré par le fait que les policiers devaient démontrer, s'ils souhaitaient déférer en justice une personne, son, je cite, « intention d'éviter d'être reconnu pour pouvoir commettre impunément des violences ». Cet encadrement a été supprimé par un amendement qui fait seulement référence à la dissimulation du visage, entre guillemets, sans motif légitime. Une notion, bien sûr, très vague, qui laisse toute latitude à les interprétations abusives. Alors, selon les propres termes de la députée ayant déposé l'amendement, cette nouvelle rédaction de l'article viserait ainsi à renverser la charge de la preuve, ce qui serait contraire à la présomption d'innocence et au droit international. Dans cette optique, ce ne serait plus aux policiers de démontrer l'intention, mais aux manifestants interpellés de démontrer qu'il avait un motif légitime. Le retrait de l'élément déjà contestable d'intention ne fait qu'aggraver le risque d'arbitraire en transformant chaque manifestant qui protégerait son visage de l'usage de la force par la police en délinquant potentiel. Voilà un petit peu le point sur cette affaire à suivre, bien sûr, puisque la loi est en train d'être traitée, elle ira au Sénat, etc. etc. Mais on est mal parti avec ce type de loi, c'est Amnesty International qui vous le dit. Voilà, nous allons passer maintenant à une action très importante que nous souhaitons d'ailleurs dérouler, nous, Albi, dans le Tarn, sur le 8 mars, autour du 8 mars, qui est la date donc de défense des droits des femmes. Donc nous voulons mettre en avant une pétition pour la liberté pour trois défenseurs des droits humains en Arabie Saoudite, Loujain Al-Hatoul, Imam Al-Jafjan et Aziza Atiousef. Voilà, Jean-Marie et Patricia, je vous laisse la parole.
Alors, nous avons reçu de nouvelles informations concernant des cas de torture et de harcèlement infligés aux défenseurs des droits humains dans la prison dans laquelle se trouvent ces trois activistes saoudiennes. Ce sont des femmes. Nous avons écrit aux autorités saoudiennes pour exiger qu'une délégation puisse avoir accès à la prison et aux activistes détenus pour nous assurer de leurs conditions de détention. Cet appel est resté sans réponse. Nous relançons donc cette pétition et préparons de nouvelles actions pour obtenir des autorités saoudiennes qu'elles répondent aux cas de torture et de harcèlement et qu'elles relâchent les défenseurs des droits humains. Nous avons donc besoin de vous tous et vous tous.
Alors, il y avait déjà eu en octobre dernier une première démarche auprès de l'ambassade de l'Arabie Saoudite pour remettre déjà des pétitions pour défendre ces trois femmes et puis avec elles 19 autres défenseurs des droits humains qui avaient été arrêtés au mois de mai dernier. Alors, manifestement sans écho, donc Amnesty les a repris dans la campagne donc, de fin d'année, donc des 10 jours pour signer. Alors il faut rappeler que ces femmes militent depuis plusieurs années pour que toutes les femmes en Arabie Saoudite aient le droit de conduire. Alors on en a beaucoup parlé bien sûr après, mais surtout pour qu'il soit mis fin aussi au système répressif de tutelle masculine, parce que avoir le droit de conduire, c'est une chose, mais avoir le droit de conduire seul en est une autre. Donc elles ont été emprisonnées en mai donc 2018, juste un mois avant la mise en œuvre du décret d'application permettant aux femmes de conduire en Arabie Saoudite. Sauf que pour l'instant, elles sont toujours en prison, alors que le décret, bien sûr, est paru et autorise les femmes à conduire, dans certaines conditions. Donc ces accusations mensongères et diffamatoires dont elles sont cibles, parce qu'elles sont en prison non pas parce qu'elles voulaient que les femmes conduisent, mais parce qu'elles sont considérées comme des traîtres, comme des agents de l'étranger. Donc elles représentent une menace pour la sécurité nationale et pour la stabilité du pays. Et donc ce sont ces motifs-là pour lesquels elles sont détenues. Elles étaient détenues dans un endroit secret, elles n'ont pas eu accès à un avocat, elles n'avaient pas de contact avec leur famille. Elles étaient à la prison de Jeddah, mais en décembre, elles ont été déplacées dans la prison de Riyad. Donc maintenant, elles peuvent communiquer par téléphone avec leur famille. Déjà, il y a une petite amélioration. Mais enfin, on considère, nous, qu'elles devraient être derrière le volant et pas derrière les barreaux. Oui. Sachant qu'elles risquent quand même jusqu'à 20 ans de prison.
Oui, ce n'est pas rien du tout.
Nous restons mobilisés pour leur défense. Alors, je vais quand même vous donner le texte de la pétition.
Absolument.
Qui est en ligne actuellement et qu'il faut signer.
Qu'il faut signer tous, d'une seule main.
Exactement.
Majesté, fin mai dernier, trois femmes défenseurs des droits humains de premier plan ont été arrêtées avec d'autres militants. Il s'agit de Loujain Al-Atloub, Iman Al-Nafian et Aziza Al-Youssef. Alors que les femmes saoudiennes sont enfin autorisées à conduire depuis le 21 juin, ces militantes courageuses qui ont activement fait campagne pour ce droit sont aujourd'hui accusées publiquement de représenter une menace pour la sécurité nationale et risquent jusqu'à 20 ans de prison. Amnesty International considère que ces femmes ont été arrêtées pour les punir de leur activité pacifique de défense des droits des femmes. Aussi, je vous demande de libérer immédiatement et sans condition Loujain, Iman et Aziza. Dans l'attente de leur libération, vous assurez qu'elles aient accès sans restriction à leur famille et à leur avocat et les protéger contre toute forme de torture et de mauvais traitement. Ça, c'est le texte de la pétition qui est en ligne, que vous pouvez signer.
Que vous devez signer. Vous allez sur amnesty.fr, vous allez la trouver immédiatement ou la signer. Plus on sera, mieux ça marche, ça fonctionnera. Ce n'est pas évident avec l'Arabie Saoudite, comme vous le savez. Hein. Mais quand même, les choses peuvent avancer. Voilà. Alors,
On en est à 34 000 signatures.
34 000 signatures déjà.
Il y a un compteur.
Il faut arriver à 40 000, vous ne verrez rien compter.
Public, ça marche.
Voilà, ça marche pas mal. Ouais. On a arrêté quand même pas mal de choses. Je vous rappelle, l'Arabie Saoudite qui aurait pu aller très très loin.
Ouais, ouais.
Même
si on n'est pas. Celui qui devait avoir.
Badawi. Les choses ont été arrêtées. Elles auraient été pires de toute façon. Mais on a bien fait d'intervenir.
Un certain nombre d'avocats.
Un certain nombre d'avocats qui sont encore en prison. Voilà. Il y a de la retenue dans la mesure où on intervient. Donc soyons nombreux. Et au plan local, d'ailleurs, on va appuyer ça par une petite action, Jean-Marie.
Donc, vous allez à la médiathèque de Saint-Juéry, à celle d'Arthès, et puis dans un magasin au séquestre Saveur Paysanne. Donc on va mettre une table de signature avec de l'information. Ce sera le 7, jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 mars. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez bien la médiathèque Saint-Juéry, allez-y. Si vous y êtes, bien signé surtout. Vous trouverez donc cette pétition, si vous n'avez pas forcément la possibilité d'y aller en ligne. Vous trouverez aussi des supports d'information. Et puis, on va faire monter le compteur jusqu'à 40 000 sans problème.
Oui, notre objectif est bien de faire connaître ce problème, cette situation, en dehors d'Albi un petit peu.
Absolument.
Parce que bon, sinon c'est Albi, Carmo, c'est Gaillac. Donc on pense que ça peut bien entendu intéresser tous les gens de la périphérie. Et donc on vous attend nombreux à Saint-Juéry, Arthès, et dans nos trois points de signature au séquestre. Et croyez-moi, plus on sera nombreux, mieux ça ira. Ouais. Bien, on va terminer par deux bonnes nouvelles. Il y en avait un certain nombre. On a sélectionné deux. Deux, pourquoi ? Parce que ce sont deux cas qui ont été résolus pour des personnes qui étaient dans nos 10 jours pour signer il y a 2-3 ans. Voilà. Donc moi, je vais parler de la Malaisie. Je ne sais pas si vous vous rappelez du caricaturiste politique Zunar, mais il a été libéré. Alors qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Tous les chefs d'inculpation retenus contre Khalid Mohamed Ismat, un ancien prisonnier d'opinion, ont été abandonnés. Arrêté le 13 octobre 2015 et libéré sous caution quelques jours plus tard, il a été poursuivi devant la justice pendant près de 3 ans lors d'audiences qui ont souvent été reportées. Les accusations de sédition, entre autres, retenues contre lui et 10 autres militants ont été abandonnées à la suite du nouveau gouvernement issu des élections de mai 2018, puis la nomination en juin d'un nouveau procureur général. Et parmi ces militants libérés se trouve le caricaturiste politique Zunar, en faveur de qui, donc Amnesty International, avait fait campagne au niveau international et dont l'accusation de sédition a été retirée dès juillet. Ben voilà une excellente chose. Bien. Alors je crois, Patricia, que tu as également bonne nouvelle.
Je voulais vous parler de la situation de Johan Teterisa. C'est un maître d'école qui a été condamné à une peine de 15 ans d'emprisonnement. Voilà. En juin 2007, il a pris la tête d'une manifestation pacifique rassemblant 22 enseignants et paysans, pour l'essentiel devant le président indonésien. Ils ont exécuté une danse guerrière traditionnelle. Ça peut paraître très, très, très dangereux. Hein. Avant de déployer un drapeau arc-en-ciel, symbole historique de l'indépendance pour le peuple de la province des Moluques, dans l'est de l'Indonésie. Il est arrêté, donc condamné à 15 ans, action d'amnistie.
Voilà.
Et alors, on vient d'apprendre, enfin, il a été libéré depuis quelque temps, et un chercheur pour Amnesty International a écrit que Johan Teterisa est libre et vit maintenant dans sa ville natale, dans l'île Aboru, aux Moluques. Donc, le chercheur dit: nous avons confirmation de sa libération en nous entretenant avec lui au téléphone. Donc, ce n'est pas une rumeur. En même temps que lui, un autre prisonnier d'opinion a été libéré. Mais 6 autres demeurent emprisonnés à Ambon. Johan Teterisa nous a demandé de remercier tous les amnestiens qui se sont battus si longtemps pour lui. Voilà.
Très bien. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir ce genre de courrier.
De bonnes nouvelles, voilà. C'est toujours bon.
Bien, chers auditeurs de Radio Bigest, notre émission se termine. Donc, je vous rappelle notre action 8 mars, entre guillemets, à Saint-Jury-Arthès et le séquestre. Sur trois jours, hein, 7-8, 6-7-8, enfin bon, vous verrez, hein, voilà, pas de problème. Donc venez soutenir les trois saoudiennes, voilà, je le répète encore. On en reparlera au mois de mars, mais on a programmé un film à la salle Arcé qui s'appelle « Femmes du chaos vénézuélien », un excellent film, un excellent reportage. Donc le samedi 30 mars à l'Arcé à 14h, la réalisatrice Margarita Cardenas sera là. Donc on vous en reparlera et puis on fera de la communication. Mais je pense que par les temps qui courent, voilà quelque chose qui peut être intéressant à débattre et à discuter. Voilà, les droits humains doivent progresser. Il faut continuer à agir avec Amnesty International pour faire pression partout dans le monde sur les autorités pour que cessent les atteintes aux droits et libertés. Vous pouvez aussi intervenir sur les situations que nous venons de vous présenter en signant nos pétitions en ligne sur amnesty.fr et sachez que les pétitions ne manquent pas. Si vous souhaitez agir avec le groupe d'Albi, envoyez-nous un courriel sur notre messagerie amnesty.albi@laposte.net. Nous prendrons alors contact avec nous. Vous pouvez également suivre nos actions et activités sur notre blog et sur Facebook. Merci de nous avoir écoutés et de nous faire part de vos commentaires et suggestions à ces mêmes adresses. Et n'oubliez pas, vos signatures ont du pouvoir. Thank you.